chercher dans la vie. Alors, je pense que depuis tout petit, je suis passionné d'astronomie et c'est vrai que je considère que voilà, c'est un objectif un peu dans la vie que tout le monde sur Terre sache un petit peu où on habite, d'avoir conscience de la Terre, de l'environnement céleste, de connaître tout simplement son entourage, son environnement. Et donc ce qui a quand même beaucoup trusté un petit peu ma vie, c'est que ça soit au niveau recherche, au niveau médiation, mes voyages, tout ce qui est projet à l'étranger, voilà, j'ai vraiment envie de partager et tout simplement de communiquer avec le plus grand nombre.
Bonjour, pour ce numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM, nous accompagnons dans la rue Sylvain Boulet, planétologue et professeur à Paris-Saclay. Sylvain Boulet est intervenu dans le cadre de la 33e semaine de l'astronomie, organisée par la Société d'astronomie de Nantes, sur le thème « La tectonique des plaques existe-t-elle sur d'autres planètes ?»
Si je vous présente comme l'arrière-arrière-arrière, petit-fils d'esprit ou de cœur de Camille Flammarion.
Ça me va très bien, j'aime beaucoup Camille Flammarion, et puis voilà, c'est quand même le président fondateur de la Société Astronomique de France que je préside aujourd'hui, donc ça me va très bien.
Je m'intéresse au parcours de mes invités, donc j'imagine un bac scientifique au départ.
Oui, tout à fait, ouais, un bac scientifique, et puis j'avais envie de... Je voulais au début plutôt devenir ingénieur, construire des observatoires, des télescopes. Donc j'ai intégré une prépa pour dans une formation d'ingénieur en optronique. Et puis ça m'a pas forcément emballé. Et c'est là où je me suis dirigé à ce moment-là, plus vers les sciences de la Terre. Après un voyage d'un mois à l'observatoire de la CIA au Chili, j'ai rencontré des gens qui m'ont un petit peu aidé à m'orienter. Et je suis parti dans mes études plutôt en sciences de la Terre pour faire de la planétologie.
Et votre rencontre avec Nicolas Mangold ?
Oui, alors bah, Nicolas, c'était
un Nantais.
C'était un Nantais, mais un Orsayen à la base, puisqu'il a commencé sa carrière au laboratoire d'Orsay. Et moi, j'étais étudiant en sciences de la Terre. Et c'est vrai que à un moment donné où je cherchais un sujet de thèse, il a eu la gentillesse de me proposer de me soutenir. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, j'ai commencé ma thèse en 2006 avec Nicolas. Et ça a été évidemment une super expérience avec toujours un peu de nostalgie aujourd'hui parce que ça fait déjà plus de 15 ans que c'est fini.
Le titre de votre thèse, relativement simple, morphologie et datation des vallées fluviales anciennes sur Mars.
Oui, c'est ça. C'était une époque où encore on n'avait pas une idée de combien de temps avait duré l'activité fluviale. Je ne dis pas qu'on sait vraiment aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une époque où on savait que l'activité fluviale sur Mars était très ancienne. Et durant cette thèse, j'ai montré notamment qu'elle avait été plus longue que prévu et puis de manière épisodique. Donc ça mettait un petit peu en perspective la science que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de retracer l'histoire primitive de Mars et de comprendre un petit peu tout l'environnement de cette planète au tout début de son histoire.
Alors si je soulignais que le titre de la thèse est un peu commun, on va dire ça comme ça, c'est parce qu'actuellement vous dirigez celle de Virgil, je ne sais pas comment prononcer...
Malarevitch.
Alors je prends ma respiration. Étude de la formation et évolution de la croûte primitive martienne à travers une approche pluridisciplinaire multi-échelle, caractérisation minéralogique de la brèche martienne NWA7533 et étude
géodynamique,
je suis obligé de tourner la page, géodynamique de la région Terra Cimmeria Sirenum. Comme ça, mais...
Cette thèse est surtout une thèse très pluridisciplinaire où en fait on est trois directeurs de thèse. Virgil Malarevitch a soutenu sa thèse le 21 décembre avec brio, donc il est maintenant docteur. Et c'est vrai que cette thèse a été particulière parce qu'il fallait s'attaquer à un sujet qui n'avait jamais été traité de cette manière-là, c'est-à-dire vraiment la première croûte de Mars, comment s'étaient formées les premières croûtes de Mars, en étudiant à la fois des données orbitales et en faisant de la cartographie sur Mars, et en étudiant aussi une météorite martienne hors du commun qui s'appelle Black Beauty et qui montre vraiment les premiers minéraux qui se sont formés à la surface de Mars.
Votre génération avec celle de Virgile, est-ce qu'on peut faire une petite comparaison ?
À mon époque, on va dire que la science martienne était, je ne vais pas dire assez balbutiement, mais en tout cas, c'était l'arrivée de nombreuses missions spatiales type Mars Express qui a vraiment révolutionné la science martienne. Donc, on était beaucoup dans le nouveau, dans les nouvelles données. Et par exemple, la détection d'argile, de minéraux hydratés à la surface de Mars date de cette époque-là. Et c'est vrai qu'il y avait cet engouement sur lequel on surfait avec les missions spatiales. Aujourd'hui, alors, les missions spatiales orbitales, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On est vraiment sur des missions spatiales plutôt in situ avec l'arrivée des robots sur Mars. Et donc, le contexte est un petit peu différent parce que beaucoup de tests sur Mars aujourd'hui se déroulent avec ces missions in situ. Et donc, on fait un petit peu moins de global pour essayer de comprendre finalement l'histoire globale de la planète Mars. Donc, Virgile, il est arrivé un petit peu dans ce cadre-là où aujourd'hui, on essaye finalement de plus se spécialiser, la science martienne était beaucoup dans la description avant et dans une description globale. Aujourd'hui, on s'attaque plus à des projets très précis. Et là, Virgile, c'est vraiment comprendre les premières croûtes avec des méthodes très, très différentes les unes des autres. Et voilà, c'est ce qui fait aujourd'hui un petit peu son bagage scientifique, c'est qu'il a su aussi bien analyser des données orbitales que analyser aussi des données, utiliser des instruments comme des microscopes, etc. Il a un bagage beaucoup plus complet que ce que j'avais à l'époque.
Je ne sais pas comment on doit dire quand on s'intéresse à Mars. Je ne sais pas si le terme défriché est le bon, mais vous faites partie de la génération des défricheurs. Non ?
Disons que moi, j'ai la chance d'arriver au bon moment où il y a eu énormément de données. Et aujourd'hui, ça va peut-être se calmer un petit peu, mais c'est vrai qu'on a acquis sur les 20 dernières années énormément de données qui nous permet encore de travailler pendant de nombreuses années aujourd'hui. C'est-à-dire que... certes, il faut aller sur Mars, peut-être faire des explorations in situ, mais les données des orbiteurs qui ont été réalisées depuis 20 ans nous donnent des données pendant encore de nombreuses décennies, donc on a encore beaucoup de travail à faire grâce à ces données.
Pour ce numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM, nous accompagnons dans la rue Sylvain Boulet, planétologue et professeur à Paris-Saclay.
Comment comprendre le titre de votre conférence, qui est sous forme de question ? La tectonique des plaques existe-t-elle sur d'autres planètes ?
J'ai eu pendant toute ma carrière beaucoup de questions sur la tectonique des plaques et sur le fait qu'on fait beaucoup d'erreurs sur ce qu'est la tectonique des plaques. Entre par exemple séisme et tectonique des plaques, c'est pas forcément parce qu'on a des séismes qu'on a de la tectonique des plaques. Et donc sur les planètes, c'est la même chose. C'est pas parce qu'une planète tremble qu'on a une tectonique des plaques. On a certes une tectonique, donc on a des mouvements dans de nombreuses croûtes. Et j'ai apporté cette question parce que on voit le rôle essentiel que la tectonique des plaques a eu sur la planète Terre, sur son évolution, sur l'apport de cette tectonique, sur le refroidissement de la planète, sur son atmosphère, etc. Et donc on peut se poser cette question, est-ce que finalement la Terre est unique grâce à cette tectonique des plaques et est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça dans le système solaire ? Donc j'ai répondu pendant cette soirée à cette question-là pour montrer quand même qu'aujourd'hui la Terre est la seule planète à véritablement avoir une tectonique des plaques.
Il y a du vent sur Mars parce qu'il y en a un petit peu là aujourd'hui, non ?
Oui, il y a du vent sur Mars. Alors c'est un vent un petit peu différent parce que la pression atmosphérique sur Mars est 150 fois plus faible que sur Terre. Donc on a du vent, on a beaucoup de poussière qui se soulève, mais vous seriez dans une tempête martienne, vous ne décolleriez pas parce que du fait de la faible pression atmosphérique, vous seriez bien ancré malgré des grandes tempêtes.
Vous affirmez que la tectonique, elle est présente que sur Terre ?
Alors aujourd'hui, on a surtout des preuves de la tectonique des plaques terrestres. Disons qu'on a des doutes sur Vénus et sur Mars quand même, dans l'histoire très primitive des deux planètes. Mais effectivement, la Terre a une caractéristique, c'est que la tectonique des plaques a su garder et est encore active en fait pendant toute l'histoire. Et ça, c'est une caractéristique de la Terre. notamment certainement du fait de sa position par rapport au soleil, par rapport à sa taille. Donc on est vraiment dans une gamme qui a permis cette tectonique. Et voilà, la planète Terre serait un peu plus petite ou un peu plus éloignée ou un peu plus proche, et bien certainement ces conditions qui font qu'on a une tectonique des plaques ne seraient pas conservées et on n'aurait pas encore cette activité importante.
Mais vous ne parlez pas en termes de composition de la Terre.
Alors la composition de la Terre, elle est quand même très ressemblante à celle qu'on observe sur Vénus ou Mars. Donc on a surtout finalement les roches sur ces trois planètes se ressemblent assez, mais on a eu des évolutions divergentes, c'est-à-dire que effectivement on a su provoquer finalement une plus grande diversité géologique à la surface de la Terre. On a ces continents, ces océans qui ont sans cesse été modifiés dans l'histoire de la Terre, et ce qui a été effectivement moins le cas sur Mars ou sur Vénus. Ça a peut-être débuté, mais en tout cas ça s'est très vite arrêté. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la Terre est unique pour plein de raisons. C'est-à-dire que la Terre est unique parce qu'on a un très gros satellite qui est la Lune. La Terre est unique parce qu'on est effectivement au bon endroit, au bon moment. Et effectivement, d'un point de vue géologique, atmosphérique, étant tous en évolution, il se fait qu'on en est là aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai que c'est plein de petits hasards qui fait qu'aujourd'hui, on a les bonnes conditions pour parler ensemble dans la rue.
Oui, mais ça répond à la question de l'unicité de la Terre. Mais sur la fonction, alors est-ce que c'est de la gestion de pression, c'est de la... je ne sais pas.
La tectonique, en tout cas, elle est particulière parce qu'elle a... Elle a réussi finalement à évacuer ce qu'elle avait de l'intérieur. C'est-à-dire que on a eu cette évolution qui fait que la tectonique des plaques a été possible, et ce qui semble être très, très rare ou impossible sur d'autres planètes. Et en tout cas, le fait qu'on évacue, en fait, c'est un petit peu comme quand vous avez de la purée chaude, vous la remuez avant de la manger. Là, c'est la même chose. La Terre, elle a été sans cesse remuée pour faire évacuer de la chaleur interne. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette caractéristique a provoqué véritablement une évolution qui est différente par rapport à celle des autres planètes telluriques. En fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est le fait que dans la croûte, on a des endroits de fragilité, et c'est ces moments de fragilité qui éventuellement permet de lancer des zones de subduction, notamment la tectonique des plaques est directement liée à ces zones de subduction qu'on observe un peu partout sur Terre. Et en fait, la tectonique des plaques, c'est avant tout ça, c'est une plaque qui plonge sous une autre et qui vient s'enfuir très profond dans la sténosphère, dans le manteau terrestre. Et en fait, pour avoir de la tectonique des plaques, il faut avoir les bonnes conditions pour initier cette tectonique des plaques et pour qu'après, toutes ces fragilités se rejoignent pour former des plaques. Donc c'est quelque chose de très particulier, effectivement, et qui fait qu'on retrouve uniquement sur Terre.
Et quelles sont ces bonnes conditions?
Ces bonnes conditions, il semblerait que il faut qu'on ait des croûtes capables de plonger dans la sténosphère, c'est-à-dire une croûte qui est un peu plus âgée, qui est plus dense que le manteau, qui est capable de plonger. Et puis des endroits où il faut pas que ça cicatrise trop vite. Si ces différentes cicatrices se cicatrisent trop vite dans la lithosphère terrestre, eh bien on va pas pouvoir former des plaques, en fait. Et c'est ce qui se passe par exemple sur Vénus. Sur Vénus, toutes ces fragilités se cicatrisent beaucoup plus vite, et donc on n'arrive pas à former de véritables plaques comme sur Terre. Donc c'est vraiment une question de dynamique interne, de température, et c'est ce qui fait que sur Terre, on a eu certainement cette possibilité de faire des plaques, mais ce sujet reste encore largement débattu. Là, ce que je vous dis, c'est effectivement le résultat d'une étude qui a été largement discutée, mais aujourd'hui, on pourrait encore trouver de nombreuses origines au début de cette tectonique des plaques qui est encore mal contrainte, parce qu'on sait qu'elle a débuté il y a à peu près 3,5 milliards d'années, mais on ne sait pas exactement comment encore.
Et on ne le sait pas parce qu'on n'a pas les outils.
En fait, sur Terre, notre gros problème, c'est qu'on a très peu de terrains très anciens. Et donc, si vous regardez, la majorité des terrains terrestres vont avoir 1-2 milliards d'années. Donc, on a du mal à revenir aux terrains très anciens qui ont 3, 3,5, 4 milliards d'années quand la tectonique des plaques a commencé. Et donc, on manque de témoins, en fait, de ce début de tectonique des plaques. Et ça a évidemment un grand problème. Donc on est obligé d'utiliser des modèles, d'essayer d'utiliser ce qu'on a pour faire de grandes théories. Alors au début, on aurait bien voulu observer des choses un peu plus anciennes, comme on observe sur Mars ou sur Vénus, mais il se fait que quand même les terrains sont différents et l'histoire est différente. Donc voilà, on en est là aujourd'hui à continuer de travailler sur différentes théories, mais il n'y a pas encore un consensus total sur ce début de la tectonique des plaques.
On pourrait observer sur Terre, puisque c'est en mouvement. Sur d'autres planètes, ce n'est plus en mouvement.
Oui, c'est ça.
Et alors, qu'est-ce qui ferait sens au niveau des traces ?
En fait, quand on regarde la Terre aujourd'hui, finalement, les continents qu'on observe aujourd'hui ne sont plus du tout, évidemment, ceux qu'il y a 4,5 milliards d'années. On a extrêmement du mal à voir à quoi pourrait ressembler la Terre, finalement, il y a 4 milliards d'années. Quand on arrive à retracer l'historique des plaques, on arrive à revenir à peu près il y a 1 milliard d'années, mais on n'a finalement aucune idée de à quoi ressemblait la Terre il y a 4 milliards d'années. C'était un autre monde avec d'autres conditions. Donc, pour contraindre, en fait, et pour répondre à cette question, il faudrait trouver de nouvelles roches qui pourraient nous donner des indicateurs. Donc ça, voilà, il y a de nombreuses études géologiques qui continuent. Et puis, quand on a des hypothèses, essayer de les tester. Mais ça reste quand même un grand jeu qui est quand même difficile à répondre. Donc avant d'avoir une réponse définitive, est-ce qu'on va avoir une réponse définitive ? Ça, c'est la grande question.
Pour ce numéro de Rien à voir magazine de la rédaction d'Alternante FM, j'ai proposé à notre invité, Sylvain Boulet, planétologue et professeur à Paris-Saclay, de poser une question à des personnes croisées au hasard de notre déambulation.
Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que c'est la tectonique des plaques ?
C'est des mouvements terrestres. Comment expliquer ça ? C'est un peu compliqué à expliquer. Mais c'est des plaques terrestres qui bougent et forcément ça fait des séismes, des tremblements de terre, des volcans, ce genre de choses.
Qu'est-ce qui se passe quand les plaques bougent les unes par rapport aux autres ?
Des changements à la surface, j'imagine.
Ouais, ça serait quoi ?
Des montagnes, des volcans, ça peut être des séismes, des tsunamis, ce genre de choses.
C'est ça. Sur Mars, par exemple, ou sur Vénus, on a beaucoup de séismes. Est-ce que séisme veut dire qu'il y a de la tectonique des plaques ?
Je ne pense pas, mais ça reste quand même des planètes magmatiques, donc j'imagine qu'il y a quand même des mouvements à la surface de ces planètes. Enfin, c'est ce que j'imagine, en tout cas.
C'est ça, c'est quoi ? En fait, effectivement, on a observé, là, notamment sur Mars, on a ressenti des séismes, puisqu'on a envoyé un sismomètre à la surface de Mars. Et en fait, on a localisé ça sur des failles, mais on sait que ce n'est pas des failles comme sur Terre, avec des plaques. Donc voilà, ces plaques, encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'unique, en fait, dans le système solaire. Voilà, c'est des grands sujets quand même qui montrent ce que c'est la Terre. En fait, bon, la tectonique des plaques est enseignée au lycée. Les gens ont quand même une petite idée, mais c'est vrai qu'on connaît très peu quand même l'histoire de notre planète Terre de manière générale. Pour replacer véritablement les grands événements, c'est compliqué. Et encore plus, évidemment, pour les âges très anciens. Ça, c'est une question qu'on pourra poser au public. Quel est l'âge de la Terre ? Je voulais savoir si vous aviez une idée de l'âge de la Terre.
Alors là, bonne question.
Je sais pas. Une centaine de billions d'années.
Est-ce qu'il y a vraiment un âge à donner ? Je sais pas.
Il y a un âge à donner, ouais.
Ah ouais ?
Alors centaines de millions d'années, pourquoi vous dites centaines de millions d'années ?
Moi, je sais pas, au moins 500, j'en sais rien. Ouais. Parce qu'il faut bien donner un chiffre et que je pense qu'on n'est pas grand-chose. Hein. L'humanité n'est pas grand-chose dans l'histoire de la Terre, donc... C'est quoi les dinosaures ? C'est 3 millions d'années ?
5 millions ? Je sais pas, je suis pas calée.
500 millions, c'est beaucoup, c'est peu ?
C'est beaucoup,
vous.
Ouais.
C'est beaucoup ?
Bon, ouais. Ça me parle beaucoup, ouais.
Je sais pas, vous me donnez quel âge ? C'est beaucoup, c'est peu. Moi, j'ai 31 ans, je trouve que c'est peu.
Les dinosaures, c'est 66 millions d'années.
66, ah oui, je pensais que c'était plus.
C'est finalement hier, en fait, au temps géologique, parce que la Terre, elle a 4,5 milliards d'années.
Ah oui, d'accord.
On a, je pense, cette notion. Si on remet 24 heures l'histoire de la Terre, en fait, l'apparition de l'homme, c'est les dernières secondes. Et les dinosaures, c'est les dernières minutes, en fait. On a réussi à dater l'âge de la Terre grâce, en fait, aux météorites. C'est là où on a pu dater les éléments les plus anciens. Donc, début de la formation de la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Et en fait, la vie sur Terre, véritablement, est apparue il y a à peu près 500 millions d'années. Enfin, la vie au sens complexe. Les plus anciennes preuves de vie, c'est 3,8 milliards d'années, à peu près, vraiment les premières bactéries. Et la vie a commencé vraiment à se développer il y a 500 millions d'années avec les poissons, les bébêtes, les végétations, etc. Voilà.
Donc, du coup, vous avez dit quel âge la Terre, à peu près ?
4,5 milliards d'années.
5 milliards. Ah oui, d'accord. T'es loin du compte.
En fait, c'est la formation du système solaire.
Et comment on arrive à dater ça? Parce que 4,5 milliards d'années, le carbone 14, j'imagine qu'on n'est plus trop sur cette méthode-là.
On va utiliser des méthodes comme le potassium-argon, comme l'uranium-strontium, donc doses d'éléments radioactifs avec des périodes de désintégration beaucoup plus longues, ce qui nous permet de revenir en fait à des roches qui ont effectivement 4,5 milliards d'années. Et dans les météorites, en fait, on a des éléments qui, voilà, qui sont les premiers solides, qui en fait la matière première pour former la planète Terre, en fait.
Est-ce qu'on sait dire à quoi pouvait ressembler la Terre il y a 4,5 milliards d'années? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y avait de l'eau? Est-ce qu'il y avait l'évapotranspiration?
C'est toutes les questions auxquelles on essaye de répondre. C'est-à-dire qu'il y a 4,5 milliards d'années, alors même 4,56 milliards d'années, il n'y avait pas de Terre. En fait, le début de l'accrétion, c'est-à-dire quand les premiers grains ont commencé à se coller les uns aux autres pour former des roches un peu plus grosses, c'était il y a 4,56 milliards d'années. On pense que la Terre a mis à peu près entre 50 et 100 millions d'années pour se former. D'accord ? Donc là, déjà, ça revient vers 4,5 milliards d'années. À l'époque, c'était très mal rangé, le système solaire. Donc en fait, toutes les petites planètes rentraient en collision les unes avec les autres. Et on a eu une petite planète, certainement de la taille de Mars, qui est rentrée en collision avec la protoplanète Terre. Et de cette collision est née la Terre actuelle et la Lune. Et ça, on pense que c'était il y a 4,4 milliards d'années. Après ça, donc, faut imaginer une planète Terre en fusion complètement, où les éléments les plus denses sont allés au cœur pour former un noyau de fer, les éléments les plus légers ont formé le manteau et la croûte, et il y a eu un dégazage énorme où l'eau, effectivement, qui était comprise dans les roches, a commencé à former cette atmosphère très riche en eau. Il faisait encore très chaud, donc c'était qu'une très grosse atmosphère, et à un moment donné, l'atmosphère, eh bien, ça s'est refroidi, et l'eau qui était dans l'atmosphère, a commencé, il y a eu des grosses pluies qui ont formé les océans.
Il y a Margot qui a une question.
Alors, est-ce qu'on peut prédire une date de désintégration de la Terre?
Alors, la fin de la Terre, c'est une grande question.
C'était une très bonne question.
Une très bonne question, évidemment, très pertinente. Hein. Et donc, en tout cas, on se pose la question de quand est-ce que ça sera la fin de la Terre. Alors, il y a plein de questions à ça, plein de réponses à ça. C'est qu'on sait que le Soleil, à un moment donné, va cesser de, pas de briller, mais en tout cas, le Soleil va commencer à grossir parce qu'il n'y aura plus beaucoup d'hydrogène à transformer en hélium. Donc, il va grossir, et en fait il sera tellement gros que la Terre va être engloutie dans le Soleil. Quand je dis ça, c'est certainement dans 3-4 milliards d'années, donc vous voyez, on a encore un peu le temps, mais entre temps, bah, il va y avoir certainement plein de choses qui vont se passer aussi. On parle quand même d'ici 1 ou 2 milliards d'années où on aura une Terre quand même complètement asséchée et complètement différente de celle qu'on connaît actuellement. Donc il n'y aura pas de véritable désintégration dans le sens de, il n'y aura pas d'explosion, par contre effectivement, certainement la Terre sera réintégrée au Soleil, sera fondue et puis sera vaporisée, quoi. Donc on n'aura plus effectivement de planète Terre.
Pas de choc d'astéroïdes.
Des gros impacts avec des gros astéroïdes, on pense que ça peut arriver tous les 100 millions d'années, 200 millions d'années. Donc on sera amené un jour à réavoir peut-être un astéroïde de peut-être 10 km, comme c'était le cas il y a 66 millions d'années, qui pourrait modifier effectivement l'histoire de la Terre. Je rappelle, il y a 66 millions d'années, certes les dinosaures ont disparu, mais 80% des espèces en fait de cette époque ont également disparu, et laissant place notamment à l'apparition des mammifères. C'est-à-dire que les dinosaures n'auraient pas disparu, on ne serait pas là en train de parler de tout ça, quoi. C'est parce que les dinosaures ont disparu qu'il y a eu des niches écologiques de libre et que les mammifères ont pu apparaître. Donc en fait, bah voilà, il y aura peut-être un nouvel impact qui modifiera complètement l'histoire de la Terre si l'humain est encore présent à ce moment-là.
Je pousse la réflexion. Il n'y a pas à craindre de la disparition des espèces parce que d'autres les remplaceront.
Oui, alors on le voit bien aujourd'hui quand même avec cette sixième extinction où quand même de nombreuses espèces disparaissent. On sait que voilà, l'humain est né à l'origine. Est-ce qu'on va vers une direction où quand même l'humain sera l'une des seules espèces et après prend beaucoup de place et qu'on a du mal à voir l'apparition de nouvelles espèces? On voit aujourd'hui quand même qu'il y a de nouvelles espèces qui apparaissent, qui remplacent d'autres. Donc ça existe encore. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que voilà, l'humain est de passage sur Terre. Donc à un moment donné, il sera amené à disparaître et certainement il y aura de nouvelles espèces qui réapparaîtront grâce à la disparition de l'humain.
Aujourd'hui, on voit on essaye de avoir de plus en plus de données sur Mars. On parle de conquête spatiale un peu renouvelée. C'est plus la Lune, c'est Mars. Est-ce qu'on sait dire aujourd'hui s'il y a un système de planètes qui peut donner la vie comme sur la planète Terre, où vraiment on est le fruit d'un miracle qui ne se reproduira pas?
C'est exactement la grande question. Et en fait, vous allez voir des scientifiques qui vont vous dire tout et son contraire, entre guillemets. Donc, c'est encore une grande discussion et un grand débat. Aujourd'hui, ce qu'on sait factuellement, c'est qu'on a détecté plus de 5000 exoplanètes autour d'autres étoiles. Donc, on sait qu'il y a des systèmes planétaires qui sont là autour d'autres étoiles. On estime que là, dans notre Voie lactée, en fait, chaque étoile qu'on voit a des planètes autour. Donc, en fait, vous voyez, il y a 100 milliards d'étoiles dans notre Voie lactée. Donc, il y a une énorme diversité de systèmes planétaires. Maintenant qu'on sait, là, depuis environ 30 ans, qu'il existe des planètes autour d'autres étoiles, c'est d'essayer de caractériser ces planètes. Et donc effectivement, c'est le gros travail qui est fait aujourd'hui avec des télescopes de plus en plus importants, des télescopes spatiaux qui sont capables de mesurer la composition chimique d'atmosphère des planètes. On est capable déjà d'essayer de trouver des planètes qui ont à peu près la même taille que la Terre, qui éventuellement sont à peu près à la même distance que la Terre. On est capable aussi de savoir si des planètes, des exoplanètes ont une atmosphère. On est capable aussi d'avoir un spectre éventuellement pour détecter de la vapeur d'eau dans ces atmosphères. Donc aujourd'hui, il y a tout ce travail qui est évidemment de plus en plus précis pour essayer de trouver une planète qui ressemble à la planète Terre. Après, ça reste extrêmement difficile de les observer directement, c'est-à-dire que c'est toujours quand même des méthodes indirectes. Même avec le télescope le plus puissant qui soit, on n'a pas la capacité de voir la planète à des détails. Déjà, quand on voit un petit point, on est content, donc on est incapable de voir véritablement les détails à la surface. Est-ce qu'on en sera capable un jour? C'est la grande question. Il faudrait fabriquer des hyper-télescopes spatiaux qui nous permettraient de voir un petit peu de détails, mais on le voit bien. Si on revient dans l'histoire il y a un siècle, quand Camille Flammarion observait la planète Mars ou la Lune avec sa lunette, elle avait beaucoup plus de détails que ce qu'on n'observera jamais sur d'autres exoplanètes, et pourtant il s'était complètement trompé. C'est-à-dire que voilà, les cratères sur la Lune, on pensait que c'était des volcans, sur Mars on pensait qu'il y avait des océans, et aujourd'hui on sait que c'est complètement différent. Donc on a besoin de décrire, on a besoin de réfléchir à ça, mais on est encore très très loin de caractériser véritablement les exoplanètes. Donc il y a un gros travail scientifique fait par toute la communauté, mais ça reste encore très très loin. L'étoile la plus proche de nous est à 4 années-lumière, donc même si un jour on voulait s'y rendre, voilà, il y en a plein qui en rêvent, mais même à la vitesse de la lumière, il faudrait déjà 4 ans. Donc vous imaginez, avec nos moyens actuels, c'est irréalisable pour le moment. Mais voilà, pour le moment.
Je m'intéresse à l'environnement de travail de mes invités et puis à leur recherche d'une manière très concrète. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire votre poste de travail ?
Alors, mon poste de travail, c'est très compliqué cette question parce qu'en fait, je suis partout et nulle part, entre guillemets. C'est-à-dire que j'habite à Reims, donc déjà, je travaille une partie dans ma maison à côté de Reims. Mon laboratoire est à Orsay. Je suis président de la Société des astronomiques de France qui est à Paris. Je travaille beaucoup avec les gens du Muséum d'histoire naturelle et de l'Observatoire de Paris. Donc, effectivement, mes journées ne se ressemblent pas, j'ai pas un poste de travail dans lequel je vais tous les jours. J'ai mon ordinateur portable qui est voilà mon poste de travail que j'emmène partout. Et donc je travaille, j'ai la chance de pouvoir avoir un métier qui se fait depuis un ordinateur. C'est vrai que du point de vue planétologie et du point de vue de l'étude des données, c'est vrai qu'on a cette chance-là de pouvoir aujourd'hui avoir accès à toutes les données spatiales en fait en ligne qu'on peut télécharger sur son ordinateur et avec des logiciels adaptés pouvoir travailler bien d'un train, d'un avion, de bord de la mer, de n'importe où. Donc aujourd'hui je travaille entre voilà mon ordinateur et puis rencontrer les gens. En fait, une grosse partie quand même de mon travail c'est effectivement développer des projets de sciences participatives comme le programme Fripon Vigiciel qui invite tous les gens à observer les étoiles filantes et à retrouver les météorites. Donc le week-end dernier par exemple j'étais dans les Ardennes pour essayer de retrouver une météorite qui venait de tomber. Et donc toute l'année on a de nombreuses missions, que ce soit sur le terrain. Cette année je vais en Islande faire un petit peu de terrain en février, ensuite aller à une conférence à Marrakech pour développer l'astronomie en Afrique, ensuite à Madagascar en juillet pour monter un festival d'astronomie, et puis ça finira par le Tadjikistan où on va aller étudier un cratère d'impact en août. Donc voilà, on n'a pas de quoi s'ennuyer et effectivement mes journées ne se ressemblent pas et j'ai cette chance-là de pouvoir faire effectivement ce que j'aime.
C'est plutôt l'analyse de données.
J'ai deux grands volets de recherche. J'ai effectivement l'analyse des données planétaires. J'utilise surtout les données qui ont été envoyées par les sondes spatiales et d'essayer de travailler vraiment sur l'analyse d'images, de données spectroscopiques. Bref, d'utiliser tous les jeux de données possibles pour écrire une histoire. Et puis de manière générale aussi, je travaille sur les cratères d'impact et les météorites. Donc là, on se retrouve un peu plus sur Terre pour essayer de retrouver ces météorites sur Terre et d'aller étudier aussi les cratères d'impact sur Terre.
J'ai lu que vous étiez passionné par la transmission du savoir. et notamment auprès du grand public, de vulgariser la science.
Aujourd'hui, c'est important, le lien entre la science et la société. On vit aujourd'hui dans un monde où la science est un petit peu, de temps en temps, remise en cause. Donc on a besoin de communiquer, de montrer que la science est indispensable à la Terre, à nos populations. Et c'est vrai qu'on a ce besoin de montrer, de toucher les plus petits, les plus grands, enfin bref, tous les différents publics, de montrer à quoi sert la science, avec des cas concrets, et puis de les impliquer de plus en plus à la recherche scientifique, comme le proposent certains programmes de sciences participatives.
Merci à Sylvain Boulet, planétologue et professeur à Paris-Saclay, et merci à
Simon,
Eva,
Florent,
Margot
pour leur libre participation à ce numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM.
Qu'est-ce que vous retenez de cette interview en marche dans les rues de Nantes ?
C'était très agréable. Puis j'aime bien les micro-trottoirs, je pense que c'est quelque chose effectivement intéressant et ça me donne des idées. Donc voilà, c'est la première fois que je faisais des micro-trottoirs de science et je pense que ça vaut le coup de continuer. Je fais souvent l'observation de la Lune dans les rues, on pose souvent le télescope dans les rues pour montrer la Lune aux passants et c'est vrai que c'est toujours intéressant de tomber sur des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la science plus que ça, mais justement d'engager la discussion et de montrer que la science est accessible à tous.